2 degrés à Nantes, Orléans et Tarbes, 32 à Lyon, 33 degrés à Valence, Toulouse et Châteauroux, 34 à Angoulême, jusqu'à 35 degrés à Nîmes, et c'est loin d'être fini. On pourrait effectivement se diriger vers la première canicule de l'année pour un certain nombre de départements ce week-end, dont on vous tiendra bien sûr informé.
Et nous ne sommes que le 18 juin. Merci Marion, très bon réveil à tous, il est 5h. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Thomas Schnell.
Le journal de 5h à la une ce matin, cette déclaration. La capitulation sans condition, c'est ce qu'exige Donald Trump. Le président américain a réuni son conseil de sécurité hier et il sème toujours le trouble sur une éventuelle entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Explication Europe 1 dans ce journal. Un pas de plus vers la fin des ZFE, les zones à faible émission. Les députés ont voté en ce sens hier, camouflé pour les macronistes, vous allez l'entendre. Et puis, toutes les C3 et les DS3 avec des airbags Takata interdites de circulation. Décision du ministère des Transports hier après un nouveau décès lié à ces appareils défectueux. Le journal de 5h avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les États-Unis vont-ils entrer en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël? La question se pose alors que la télévision américaine CNN affirme que Washington pourrait s'engager directement dans le conflit. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump affirme savoir où se trouve le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. Il dit aussi ne pas compter l'éliminer. Le président américain souffle le chaud et le froid et selon la presse américaine, il serait très proche de déclencher une intervention, Rémi.
Oui, selon la presse américaine, Donald Trump serait très proche de déclencher une intervention militaire en Iran. Hier, le président américain a réuni une nouvelle fois sa cellule de crise et il semblerait qu'il ait décidé d'écouter les Israéliens qui ne cessent ces derniers jours de demander à Washington de s'engager dans le conflit. Aucune confirmation officielle pour le moment, mais selon CNN, qui a parlé à des responsables israéliens, l'État hébreu est très optimiste. Hier toujours, Donald Trump s'en est aussi pris à l'Iran sur son réseau Truth Social, demandant sa capitulation sans condition et menaçant même directement le guide suprême iranien. Et puis, il y a tous ces mouvements militaires observés ces derniers jours, deux destroyers américains désormais en Méditerranée orientale, le porte-avions américain USS Nimitz en route vers le Moyen-Orient et les bombardiers B-2 redéployés dans l'océan Indien, bombardiers dont les bombes peuvent atteindre les bases nucléaires souterraines iraniennes.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Alors pourquoi les États-Unis sont-ils si indispensables à Israël dans cette guerre? Eh bien parce qu'ils sont les seuls à pouvoir atteindre les sites d'uranium enrichi.
Oui, notamment celui de Fordo, construit sous une montagne, difficile d'accès, donc difficile à détruire. Seul moyen, l'usage de bombes ultra-puissantes, notamment la GBU-57, une bombe américaine anti-bunker capable de pénétrer profondément sous terre, bombe XXL qui manque aujourd'hui à Israël pour achever son but de guerre, la fin du programme nucléaire iranien. Jean-Baptiste Marty.
Elle mesure 6 mètres de long, pèse 14 tonnes, dont un quart est de la charge explosive. Son surnom, Bunker Buster, comprenait chasseuse de bunker. Il faut s'imaginer une sorte de mini-fusée capable de transpercer une épaisseur de 60 mètres de granit et d'acier. C'est 10 fois plus que les missiles balistiques israéliens. La bombe est donc essentielle aujourd'hui pour Israël pour détruire le site nucléaire du Fordo, enfoui à plus de 80 mètres de profondeur. Il faudrait même plusieurs GBU-57 pour une destruction totale, mais cette bombe a aussi une contrainte, elle est si importante qu'elle ne peut être chargée que sur les bombardiers américains B-2, donc seuls les Américains aujourd'hui peuvent la larguer et Donald Trump ne semble pour le moment pas prêt à en céder à l'armée israélienne. Fournir cette bombe ferait des États-Unis un combattant direct dans ce conflit.
Jean-Baptiste Marty.
Face à l'escalade militaire au Proche-Orient, notre priorité c'est la sécurité de nos ressortissants, assure le ministère des Affaires étrangères.
Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre Jean-Noël Barrot a indiqué avoir pris des mesures en faveur du rapatriement des Français bloqués en Israël. Écoutez.
Nous avons ouvert une ligne téléphonique accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous avons ouvert une cellule d'écoute psychologique au service de nos ressortissants. Et nous avons réuni hier les chefs d'îlots, c'est-à-dire les Françaises et les Français responsables en Israël de la sécurité d'une partie du territoire. Ce matin, j'ai réuni les ambassades des pays concernés et les services de l'État et j'ai décidé de renforcer les effectifs de la cellule d'écoute, ou en tout cas de la ligne téléphonique d'urgence, pour améliorer les conditions de prise en charge. J'ai décidé que nous puissions clarifier les voies de sortie terrestre d'Israël vers la Jordanie au nord, vers Amman, ou au sud, vers Aqaba, ou en Égypte, vers Sharm el-Sheikh, où les ressortissants qui le peuvent et qui le souhaitent peuvent prendre des billets d'avion et regagner le territoire national.
Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, hier à l'Assemblée nationale.
5h04 sur Europe 1, un pas de plus vers la suppression définitive des ZFE, les zones à faible émission.
L'Assemblée nationale a approuvé hier le projet de loi de simplification qui prévoit l'arrêt de ce dispositif. La mesure ne figurait pas dans le texte initial porté par Gabriel Attal, alors Premier ministre, mais il a largement été modifié depuis, à tel point que le groupe Ensemble pour la République avait consigne hier de voter contre. Cette adoption, Arthur Delaborde, c'est donc un véritable camouflet pour les macronistes.
C'est un revers cinglant pour Emmanuel Macron. Le président voulait voir le projet de loi de simplification repoussé en dénonçant le détricotage de son bilan écologique. Mais le groupe macroniste n'a pas réussi à faire barrage au texte, au grand regret de la députée Renaissance Marie Lebec.
C'est devenu un fourre-tout, un projet disloqué et vidé de sa cohérence par les conséquences d'alliances contraires. C'est un texte qui fragilise ce que nous avons construit depuis 8 ans.
Mais les consignes de leur chef de file, Gabriel Attal, n'ont pas suffi. 14 députés Renaissance se sont abstenus, 8 ont voté pour. Dans le camp président, Horizon et le Modem ont, eux, défendu le texte. Résultat, les Républicains et le Rassemblement National sabrent le champagne. L'abandon des ZFE est leur cheval de bataille depuis des mois. La députée LR, Anne-Laure Blin.
Nous savons que les Français sont derrière nous. Vous savez, les gueux. Les gueux, ceux qui nous disent tout simplement qu'il faut arrêter cette machine infernale.
Mais la partie n'est pas encore terminée. Les versions du texte votées au Sénat et à l'Assemblée étant différentes, une commission mixte paritaire devra trancher à la rentrée sans garantie d'accord.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Une journée de plus pour le conclave des retraites.
Oui, il devait s'achever hier, mais pour éviter un échec cuisant après 3 mois et demi de concertation, François Bayrou a autorisé une négociation supplémentaire le 23 juin prochain. Cependant, les partenaires sociaux, déçus par la dernière tentative de conciliation, hésitent à s'y rendre.
Et puis la bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent les titres restaurants pour faire leurs courses.
La ministre du Commerce et des PME a annoncé hier la pérennisation de cette possibilité à partir du 1er janvier 2025. En janvier dernier, le dispositif visant à permettre l'utilisation des titres restaurants pour les courses alimentaires au supermarché avait été prolongé pour 2 ans en attendant une réforme.
Si vous conduisez une Citroën C3 ou une DS3, faites immédiatement vérifier la marque de votre airbag. Si c'est un Takata, alors votre véhicule doit être immobilisé sans délai. C'est la décision hier du ministère des Transports.
Et Citroën a même demandé un stop drive dans toute l'Europe car ces airbags défaillants sont extrêmement dangereux. Déjà responsables de la mort de 18 personnes en France, dont 16 en Outre-mer et 2 dans l'Hexagone. La dernière, le 11 juin dernier à Reims. Le récit de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin.
Mercredi dernier, une femme de 37 ans est au volant de sa Citroën C3 sur une autoroute de Reims lorsqu'un camion heurte l'arrière de sa voiture. Celle-ci vient percuter la barrière centrale de l'autoroute. Le choc est suffisant pour que l'airbag se déclenche et explose, raconte François Schneider, procureur de Reims.
La conductrice était très gravement blessée au visage et on a retrouvé un morceau de métal dans sa trachée. L'autopsie a confirmé que la cause de l'accident était clairement l'explosion de l'airbag et la projection de boue métallique sur le visage.
Ce drame aurait dû être évité, selon maître Charles-Henri Coppet, avocat d'une vingtaine de familles de victimes des airbags Takata.
Ce qui est terrible, c'est que ça fait plusieurs mois que nous alertons sur le fait que des morts sont à venir. Et il faut qu'aujourd'hui, l'État effectivement contraigne encore plus fortement, et pas uniquement Citroën, mais toutes les marques, dès lors qu'elles recèlent cet airbag Takata.
Dans le Grand Est, Mélina Fachin, Europe 1.
En sport, la disparition d'une légende du football, Bernard Lacombe, s'est éteint hier à l'âge de 72 ans, champion d'Europe 84 avec les Bleus, sélectionné en équipe de France 38 fois, grand nom de l'Olympique lyonnais. De nombreux hommages lui sont rendus depuis hier. Le football français perd un de ses plus illustres serviteurs, écrit le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Au-delà d'être un immense footballeur, tu étais un homme profondément bon et drôle, témoigne pour sa part sur X l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui était également son ami de longue date.
Merci Fanny Marceau, ne manquez pas un rendez-vous ce matin à 8h, 8h10 exactement. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, président des Républicains et l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. C'était votre journal à 5h09. Vous le savez, Olivier Delacroix vous accueille dans la libre antenne tous les soirs du lundi au jeudi à partir de 22h45 sur Europe 1. Juste après les années top 50, un moment d'échange en toute liberté. sans jugement ni tabou.
Et si vous aussi vous souhaitez témoigner et partager votre expérience avec Olivier Delacroix, vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé, 01 80 20 39 21.
Nous sommes le mercredi 18 juin. Très bon réveil à tous.
Il est 5h10, c'est dans un instant, c'est la contre-proposition d'Edouard Tétrault.
Face à une situation politique bloquée au Parlement, devons-nous nous inspirer du modèle suisse? Edouard Tétrault nous apporte son point de vue. Mais d'abord, les courses avec votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Thomas, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Toulouse et mon pari gagnant sera le 105, Jim Perrin, irrésistible, le 28 avril sur l'hippodrome de Cholet. Un tracé corde à droite similaire à celui de Toulouse. La facilité avec laquelle il s'est imposé ce jour-là me permet de vous affirmer qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à doubler la mise. Alors notez bien pour cet après-midi à Toulouse, réunion 1 dans la première course, le numéro 5, Jim Perrin.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve avec vos pronostics du quintet complet après le journal de 5h30. Dans un instant, la contre-proposition et votre histoire dingue, Marion Gagnoux.
Oui, c'est une belle histoire d'entraide ce matin. Je vais peut-être vous émouvoir, Thomas. Et vous, chers auditeurs, j'espère.
On espère.
5h10 sur Europe 1, Thomas Schnell.
Bonjour, Edouard Tétrault. Votre 17e contre-proposition ce matin nous emmène en Suisse.
Oui Thomas, en Suisse, le pays de Guillaume Tell, de Henri Dunant pour la Croix-Rouge et de Roger Federer. Mais vous voyez, Thomas, des Suisses mondialement connus, des De Gaulle, des Napoléon, des Henri IV Suisses, eh bien on a du mal à les citer pour une bonne raison, ils n'existent pas. Et c'est peut-être l'une des clés du succès du modèle suisse justement dont nous devrions nous inspirer.
Vous voulez dire pas d'hommes d'État, pas de grands hommes, vous m'étonnez.
Plus précisément, pas d'homme providentiel. En Suisse, on n'attend rien du sommet de l'État. On n'attend rien d'en haut, à part une chose, une bonne et saine gestion, et une gestion qui ne dure pas. En Suisse, le président du Conseil fédéral a un mandat d'un an non renouvelable. Pas de temps à perdre avec des discours prétentieux, des envolées lyriques, un train de vie royal élyséen. On est ici pour servir, pas pour se servir et servir sa gloire. Et cela se lit dans les performances extraordinaires de la Suisse que vous retrouverez dans votre magazine préféré du mercredi, le JD News. Deux fois moins de chômeurs que nous, notamment le chômage des jeunes. Par habitant, les Suisses sont en moyenne 50% plus riches que les Français. Quand on a 10 médecins pour 3000 habitants, ils en ont 15. L'éducation, eh ben, les Suisses sont 8e mondiaux au classement PISA, quand nous sommes tout juste 26e à la moyenne de l'OCDE. Nous n'avons pas de service militaire, le leur c'est 245 jours. Est-ce qu'ils dilapident de l'argent public à profusion pour cela? Même pas, au contraire. Leur dette, c'est 17% du PIB contre 113% pour nous. Comme si on effaçait 2000 milliards de dettes chez nous.
Bon, c'est pas mal tout ça, mais vous proposez quoi? Qu'on devienne Suisse?
Ah non, la neutralité dans le monde actuel, non merci. Israël, l'Iran, bref. En revanche, vite, copions les Suisses dans ce qu'ils ont de meilleur et qui explique ses performances. En Suisse, le peuple n'arrête pas de voter, localement, nationalement, par référendum et votation. C'est le peuple qui fait la loi, pas une bureaucratie que plus personne ne contrôle ni ne sanctionne. Alors ma contre-proposition, Thomas, elle est simple. Élisons en 2027 un président de la République qui rendra la parole et le pouvoir au peuple français et qui proposera tout de suite, dès l'été 2027, une batterie de questions référendaires pour que nous reprenions le contrôle de notre pays, le contrôle de nos frontières, de notre économie, de notre société et de notre destin. Je terminerai avec la devise de la Suisse, qui est une devise de mousquetaire, un pour tous, tous pour un, et nous réussirons tous ensemble.
Merci Edouard Tétrault.
Il est 5h13 et à suivre à 5h20, et bien ce sont les initiatives en France avec vous Thomas.
Ils sont plus de 9 millions en France, 9 millions à s'occuper d'un proche malade. Le quotidien des aidants est parfois difficile à saisir en entreprise. Alors, pour mieux se le représenter, une immersion virtuelle est proposée par l'Association française des aidants. Son directeur est notre invité dans un instant.
Europe 1.
Mais tout d'abord, votre histoire dingue, Marion, ce matin, vous nous parlez d'une belle histoire d'entraide entre les habitants d'une même ville.
Oui Thomas, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde de brutes. Allez, je vous emmène en Arkansas ce matin aux États-Unis, dans la petite ville de Keybot exactement, où vit Bill Mogjulveski. Excusez-moi pour la prononciation, c'est pas sympa. Mogjulveski. Un homme de 58 ans qui est gardien dans un magasin Walmart.
Et il souffre d'un handicap.
Et oui, Bill est partiellement aveugle, ce qui l'empêche de pouvoir conduire pour se rendre à son travail. Il s'y rend donc à pied tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Un trajet de 8 km quand même aller et retour, hein, soit 2 heures de marche quotidienne. Bon, vous me direz, c'est bon pour la santé. Lui, au moins, il les fait, ses 10 000 pas journaliers. Mais bon, c'est pas toujours une partie de plaisir.
8 km à pied, ça use, ça use.
Eh oui, mais ça, c'était avant.
Avant qu'il ne tombe sur Christy Conrad.
Eh oui, Christy, c'est une habitante de Keybot. Et un jour, alors qu'elle était en voiture, elle a aperçu Bill marchant seul et elle lui a proposé de le déposer. En chemin, ils ont fait connaissance. Bill lui a bien sûr raconté ses trajets quotidiens pénibles, son handicap. Et Christy, touchée par cette histoire, a recommencé à le conduire à son travail le lendemain, puis un autre jour, et encore, dès qu'elle le pouvait.
Mais il y a des jours, justement, où elle ne le pouvait pas.
Et non, c'est normal, Thomas, mais pour ces jours-là, comme elle était bien décidée à ne plus jamais laisser Bill marcher tous ses kilomètres, eh bien, elle a créé un groupe Facebook qu'elle a appelé « Le village de Mr. Bill », grâce auquel elle espérait trouver quelques volontaires pour prendre le relais, eh bien, quand elle ne pouvait pas conduire Bill à son travail, hein, tout simplement. Et aussitôt, la magie a opéré, l'élan de solidarité a dépassé toutes ses attentes, puisqu'en quelques jours, des centaines d'habitants ont rejoint la page et aujourd'hui, elle compte 10 000 abonnés. Depuis, les habitants s'organisent pour aider Bill. Ils postent des photos à chaque fois qu'ils le prennent et le déposent en voiture. C'est limite si les gens se battent pour accompagner Bill et pour qu'il profite d'un trajet au chaud. Il y en a même qui parcourent les rues à sa recherche. Vous savez, comme un Où est Charlie à taille réelle. Et il faut beaucoup de chance pour tomber sur lui désormais, puisqu'il est très rare qu'il fasse encore son trajet à pied. C'est devenu une petite star des réseaux, Bill.
Sympa. Et pour Christy, son geste de bonté s'est même avéré payant.
Voilà, c'est le karma. Le positif attire le positif, puisqu'un concessionnaire automobile local a voulu offrir une voiture neuve à Bill, mais comme il ne peut pas conduire, eh bien lui, il l'a offerte à Christy pour saluer son initiative. C'est beau, hein ? Alors moi, j'avoue que je ne prends jamais personne en stop, mais j'y repenserai si je peux gagner voiture, ça vaut le coup, pourquoi pas ? Ah bah bravo, bravo, vous êtes courageux.
J'ai le souvenir de ma mère qui, tous les matins, emmenait une de nos voisines d'habiter à la campagne, qui marchait effectivement 5 km pour aller au village. Et dès qu'elle le pouvait, elle croisait cette femme et elle la faisait monter à bord de sa voiture, puisque cette femme n'avait pas le permis et elle avait besoin de se rendre au village.
Eh bah, belle initiative. Je vais vous partager la page Facebook, justement, qu'a créée Christy. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les photos. Franchement, c'est très touchant. Bravo à elle.
Bravo, bravo. Voilà, n'hésitez pas à prendre parfois vos voisins et à les emmener à leur rendre service. ça rapporte toujours. Merci Marion Gagnon. Vous êtes bien sur Europe 1. Excellent réveil à tous.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Thomas Chenel.
À 5h16, toute l'actualité, le journal permanent avec Fanny Marceau.
Capitulation sans condition, l'exigence de Donald Trump adressée à l'Iran hier. Le président américain qui a réuni son conseil de sécurité sème toujours le trouble sur une éventuelle entrée en guerre des États-Unis. Il a assuré hier savoir où se trouve le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, assurant cependant ne pas avoir l'intention de l'éliminer. Un pas de plus vers la suppression définitive des ZFE, les zones à faible émission. L'Assemblée nationale a approuvé hier le projet de loi de simplification qui prévoit l'arrêt de ce dispositif. Texte différent de celui adopté au Sénat et qui devrait être débattu en commission mixte paritaire. Après la mort d'une deuxième personne dans l'Hexagone à cause d'un airbag Takata, la 18e victime en France, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 afin de changer leurs airbags. Jusqu'à présent, certains conducteurs avaient été invités à faire remplacer leurs airbags, mais pas à cesser d'utiliser leur véhicule. Le constructeur automobile Citroën a également demandé l'immobilisation immédiate de tous les modèles de ses voitures encore équipés d'airbags Takata en Europe, quelle que soit leur année de production. Après ce nouveau décès en France lié à ces équipements défaillants. Et puis 250 millions d'euros, le super jackpot de l'Euromillion remporté hier soir en Irlande. Remise en jeu 4 fois de suite, le vainqueur avait tous les bons numéros, le 13, le 22, le 23, 44, 49 et les étoiles 3 et 5. Trois autres joueurs qui avaient trouvé les 5 bons numéros et l'une des 2 bonnes étoiles ont empoché 7,8 millions.
Merci. Il y en a qui passent mercredi.
Ils vont passer de bonnes vacances. Ouais.
Ça va, au début de l'été. Merci Fanny Marceau. Vous êtes bien sur Europe 1. Dans un instant, sera votre journal de 5h30. Mais d'abord, nous allons écouter Clara Luciani.
Oui, Clara Luciani qui évoque la difficulté à mêler carrière et maternité dans ce titre. Courage à venir sur Europe 1.
Les initiatives sur Europe 1 ce matin avec Simon de Gardel, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Association française des aidants. Les aidants, ce sont Ces Français, plus de 9 millions de personnes qui accompagnent au quotidien un proche malade. Aujourd'hui, vous vous associez avec la start-up Airvolution pour une immersion en réalité virtuelle avec le quotidien d'un aidant, justement. Simon de Gardel, on a besoin de ça aujourd'hui pour faire comprendre la réalité du quotidien des aidants, d'une immersion en réalité virtuelle.
Bah écoutez, en tout cas, c'est une première. On a décidé de lancer cette innovation avec Airvolution il y a peu. On l'a lancé la semaine dernière avec Alliance. Et je pense que, en tout cas, cette innovation, cette nouvelle façon de voir, va permettre de prendre conscience, en tout cas, que le quotidien des aidants au travail, il n'est pas tout à fait le même que pour les autres. Et c'est d'autant plus important que moi, je suis persuadé qu'on est tous concernés par le fait d'être aidant, peut-être pas maintenant, mais en tout cas bientôt. Donc c'est la raison pour laquelle on a lancé cette solution.
Ça veut dire que les aidants et actifs ont besoin, voilà, de faire comprendre leur réalité à leurs collègues. C'est eux, les collègues, la cible destinée par votre initiative?
Alors, c'est un peu tous les salariés de l'entreprise. Il faut savoir qu'un proche aidant, il va d'abord en parler à ses collègues. À peu près 50% des proches aidants décident d'en parler à leurs collègues. C'est vraiment leur première personne à qui ils vont en parler. Et puis, ils en parlent très peu à leur RH et à leur manager. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est souvent à l'origine de malentendus avec le RH et le manager. Et donc, c'est aussi la cible de cette solution. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser et qu'ils puissent en parler, en fait, que ça puisse devenir un sujet dans l'entreprise et que ce soit pas juste invisibilisé, que ce soit pas normal et donc que tout le monde s'en empare, en fait.
Ça veut dire que c'est trop récent encore, la reconnaissance du statut d'aidant, et qu'il faut encore sensibiliser aujourd'hui, faire comprendre les réalités, qu'il y a des tabous autour de la vie des aidants.
Complètement, oui, tout à fait. Alors déjà, il n'y a pas de statut d'aidant. Il n'y a pas encore de statut d'aidant. Il y a une définition de ce que c'est qu'un proche aidant dans la loi depuis 2015. Il y a quelques droits. Mais voilà, on est encore très... très timide sur les politiques à destination des aidants. Il y a quelques entreprises qui se mobilisent justement parce qu'elles ont bien compris que ça allait les concerner. Aujourd'hui, un salarié sur cinq est aidant. Demain, en 2030, un salarié sur quatre. Donc, on voit que concrètement, si les entreprises ne s'en préoccupent pas, eh bien, elles vont au-devant de difficultés ou de coûts supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle certaines font appel à l'Association française des aidants et à Airvolution pour déployer cette solution.
Vous avez le sentiment, aujourd'hui, vous le dites, que la législation est peut-être en retard avec la reconnaissance du statut d'aidant, mais que les entreprises, elles commencent à faire leur part des choses, qu'il y a voilà, ça et là, des initiatives tout de même pour faciliter la vie des aidants.
Oui, tout à fait. Ouais. On peut voir, alors là, on peut voir effectivement le verre à moitié plein ou à moitié vide. Sur le verre à moitié plein, effectivement, le droit commence à bouger. Depuis 2019, elles doivent négocier un accord collectif sur les proches aidants. Donc certaines entreprises, notamment la plupart les grandes entreprises, eh bien incluent ça dans leurs accords. Et il y a des solutions qui sont proposées, par exemple le fait de flexibiliser davantage le temps de travail, le fait d'avoir recours au télétravail, ou le fait de compenser le congé de proche aidant. Vous savez qu'il est indemnisé, ce congé de proche aidant, à hauteur du SMIC, et certaines entreprises vont venir le compenser. Donc il y a des éléments qui se mettent en place. Mais c'est encore assez timide et beaucoup encore de DRH voient le sujet des proches aidants aussi comme une contrainte. Or, c'est pas une contrainte, au contraire, c'est l'occasion de travailler sur l'ensemble des vulnérabilités. Parce que je vous le rappelle, un proche aidant, c'est quelqu'un qui accompagne une personne malade, mais aussi une personne en situation de handicap ou une personne en situation de perte d'autonomie.
Simon de Gardel, j'aimerais évoquer avec vous la loi fin de vie qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est un sujet qui... concerne beaucoup d'aidants aujourd'hui qui sont confrontés, voilà, c'est à la fin de vie de leurs proches. Comment a été appréhendé, comment a été accueilli ce vote en première lecture, il faut le dire, à l'Assemblée nationale du projet de loi?
Déjà, moi, je trouve que je tiens à saluer en fait tout le travail démocratique qui a été fait et ça, c'est assez exemplaire. Il y a eu une réelle mobilisation des associations de malades, une convention citoyenne en 2023, un avis du Conseil national de l'éthique qui a été rendu, et un travail parlementaire qui est relativement lent et qui est nécessaire. Cette lenteur est nécessaire. Donc ça, déjà, sur le point de vue démocratique, je trouve ça assez assez remarquable. Après, il y a la question, cette loi, elle va plutôt dans le sens de la liberté et de la dignité, notamment de choisir sa fin de vie. Mais l'association, on a quand même trois points d'intention. Un, c'est déjà qu'on nous promet depuis très longtemps une loi sur le grand âge. Chaque ministre de la Santé s'y engage et sans concrétiser et qu'il prenne la mesure du choc démographique qu'on va vivre, quoi, un peu le choc écologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la question des soins palliatifs. Et la loi sur les soins palliatifs qui a été votée, eh bien, à notre sens, n'est pas assez ambitieuse. Et elle est quand même très corrélée à la question de l'aide à mourir, parce que quand on choisit éventuellement de recourir à l'aide à mourir, la question de la douleur est centrale. Et si on n'a pas des soins palliatifs suffisants, je vous rappelle que aujourd'hui, une personne sur deux ne peut pas encore en bénéficier, qui devrait en bénéficier, où il y a 21 départements qui n'ont pas de lit en soins palliatifs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe. Et puis, dernier point, notamment dans certains scénarios, et ça on s'en félicite, nous on a milité contre, le geste était délégué aux proches, le geste pouvait être délégué aux proches aidants, et ça on le retrouve pas dans la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale le 27 mai dernier.
Merci beaucoup Simon de Gardel,
merci à vous.
Directeur de l'Association française des aidants. Merci d'être venu nous parler de ce sujet essentiel sur Europe 1 ce matin.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Thomas Chenel.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 5h25 dans quelques minutes, le journal de 5h30, mais d'abord un réveil en musique, Marion.
Et on écoute Courage, le troisième single de l'album Mon Sang, signé Clara Luciani. Bon réveil sur Europe 1.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut.
Sur Europe 1, et je vous invite à aller voir le clip de Courage. Il reprend les images de sa tournée, des moments de scène, des coulisses. C'est vraiment une très belle immersion.
Très bon réveil à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce mercredi 18 juin. Dans la prochaine demi-heure, votre club culture Europe 1, Nicolas Carreau pour la recommandation littéraire.
Oui, Nicolas a choisi un livre culte d'Oliver Sacks ce matin. Alors rien que le nom du livre intrigue, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau.
Et chaque mercredi, les sorties ciné.
Avec Laurie Choleva qui vous parlera du tout nouveau Pixar et d'une comédie qui fait déjà beaucoup parler, Avignon.
Et puis l'invité d'Europe 1 Bonjour à 6h-20. Faut-il que la guerre entre l'Iran et et Israël aboutissent à la chute du régime des Mollahs. Quels sont les risques d'un soutien militaire de la France à Israël? Le député La France Insoumise Aurélien Taché répondra à nos questions dans un instant. Et puis nous reviendrons avec lui sur la suppression des ZFE, zones à faible émission, votée hier à l'Assemblée nationale. Tout d'abord à 5h28, le temps, Marion, une nouvelle hausse du mercure.
Et oui, ça y est, on va dépasser les 30 degrés cet après-midi sur une grosse moitié du territoire. Hein. 30 à Chartres, Saint-Etienne, Biarritz et Strasbourg, 31 à Gap, Bourges, Vannes et Paris, 32 degrés à La Rochelle, 32 à Nantes, Blois, Lyon et Poitiers, 33 à Toulouse, Perpignan et Limoges, 34 à Angoulême, Bordeaux ou encore Niort et jusqu'à 35 degrés à Nîmes. Alors côté ciel, les jours se suivent et se ressemblent avec un temps globalement très ensoleillé. Toujours quelques bandes de grisailles, des brouillards ou des nuages bas ce matin sur les régions proches de la Manche. Et puis sur les reliefs du sud cet après-midi, on pourrait avoir quelques averses, notamment sur les Alpes du Sud et le relief Corse. Partout ailleurs, un soleil de plomb. Faites attention, protégez-vous, hydratez-vous.
Merci Marion, très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Thomas Schnell.
Le journal de 5h30 à la une. Ce matin, le Moyen-Orient, toujours à la une de l'actualité. Les États-Unis vont-ils entrer en guerre? Donald Trump exige une capitulation sans condition de l'Iran. Le président américain a réuni son conseil de sécurité à la Maison-Blanche. Conseil de sécurité également à l'Élysée cet après-midi. Emmanuel Macron qui qualifie de péripétie les critiques acides de Donald Trump à son endroit. Dans l'actualité également, pas de fumée blanche et un peu de confusion à l'issue du conclave sur les retraites. La CFDT et la CFTC annoncent une ultime réunion le 23 juin. Les autres partenaires sociaux, dont le MEDEF, réservent leur réponse. L'affaire des airbags Takata défectueux. Le gouvernement demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 faisant l'objet d'un rappel. 210 000 véhicules sont concernés. Et puis la disparition d'une grande figure du football français en général et de l'Olympique lyonnais en particulier. Bernard Lacombe est mort hier à 72 ans. Le journal de 5h30, Christophe Lamar, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. La bataille commence, la réplique du guide suprême iranien après les déclarations de Donald Trump. Le président américain exige une capitulation sans condition de l'Iran. Réunion du Conseil de sécurité dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Peu d'informations, mais selon la chaîne américaine CNN, on s'éloignerait d'une solution diplomatique. L'Iran qui revendique le tir de plusieurs missiles hypersoniques sur Israël cette nuit.
Pour les ressortissants français bloqués en Israël, une nouvelle nuit d'angoisse sans possibilité de rapatriement.
Aéroport fermé et pas de corridor sécurisé prévu à ce stade, malgré la demande du maire de Nice et du président de la région PACA. À la place, le ministre des Affaires étrangères annonce l'ouverture d'une ligne téléphonique dédiée, insuffisant pour Alan qui veut absolument rentrer en France.
On passe des nuits qui sont très très compliquées, très physiques. La journée, on essaie de dormir parce qu'on sait qu'on va passer une sale nuit. On est réveillé toutes les heures sous les missiles en fait, tout simplement. On entend et on voit rien. Et on se dit que ça peut peut-être tomber sur nous. Il y en a eu un qui a explosé. Les murs ont vraiment tremblé. On pensait que, vraiment, c'était à un immeuble de nous, quoi. Et en fait, c'était à 2-3 minutes à pied. Mon vol a été annulé. Et depuis, pas d'aéroport. Donc, aucune solution ici. J'essaie de trouver des moyens de rentrer parce que j'ai quand même des parents qui sont très inquiets, que j'ai quand même une vie à Paris, un travail à Paris. En fait, les moyens qui m'ont été proposés pour le moment, c'est d'attendre que l'aéroport réouvre et de prendre un vol classique. J'en appelle au gouvernement, oui, bien sûr, parce que je suis pas le seul dans ce cas. D'ailleurs, deux amis à moi avec qui je suis actuellement. Et on n'est pas les seuls. Je suis sur des groupes WhatsApp où il y a des 400-500 personnes qui sont dans la même situation.
Alan, français installé en Israël, joint par Théo Grévin.
L'une des questions qui se posent dans ce conflit entre l'Iran et Israël, c'est de savoir si Téhéran peut encore compter sur des alliés.
Et Téhéran, dont une partie de l'état-major militaire a été décapitée par les frappes israéliennes, semble de plus en plus isolée. Moscou et Pékin, alliés traditionnels, se cantonnent à des déclarations diplomatiques, Wilfried de Villers.
Oui, dès le début de cette guerre, Vladimir Poutine s'est dit prêt à jouer le rôle de médiateur entre l'Iran et Israël. C'est à peu près la seule proposition formulée officiellement par Moscou. Selon le géopolitologue Frédéric Ancel, la Russie ne s'investira pas davantage.
Poutine aujourd'hui n'enverra absolument aucune espèce de force militaire de quelque nature que ce soit en faveur de l'Iran. Un, elle n'en a pas les moyens. Deux, cette Russie a déjà montré qu'elle était duplice en abandonnant l'Arménie en 2020 et Bachar el-Assad il y a quelques mois de cela.
Moscou a bien conclu un accord stratégique avec Téhéran il y a 5 mois, mais il ne comporte pas de clause d'assistance mutuelle en cas d'agression. Quant à Pékin, ses relations avec l'Iran sont avant tout commerciales. La Russie et la Chine ne veulent pas d'un embrasement régional et l'Iran ne peut pas compter non plus sur les pays du Golfe.
Les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite, fondamentalement, sont très heureux de ce qui est en train de se passer. Leur concurrent principal dans la région, région sur le plan religieux, sur le plan énergétique, sur le plan institutionnel, ce n'est évidemment pas Israël, c'est l'Iran.
Un isolement stratégique, oui, mais l'Iran, même affaibli, dispose toujours d'une capacité de nuisance importante. Elle aurait encore plusieurs centaines de missiles capables de frapper Israël.
Wilfried de Villers.
Donald Trump furieux contre Emmanuel Macron, le chef de l'État accusé d'avoir trahi un peu trop vite la pensée du président américain lors du sommet du G7.
Le président américain estime que son homologue français a conclu un peu vite que s'il quittait le G7 prématurément, c'était pour travailler sur un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Emmanuel Macron s'est empressé donc de lui répondre, Arthur Delaborde.
Accusé par Donald Trump de ne rien comprendre et de se faire de la publicité sur le dossier iranien, Emmanuel Macron balait les critiques du président américain en les qualifiant de péripéties.
Ce n'est pas les premières, ce ne sont pas les dernières. Il a des mots extrêmement amicaux. Il a voulu remettre de l'ambiguïté dans sa position. Il a donc dit qu'il n'allait pas discuter un cessez-le-feu. Bon. Ça ne m'émeut pas.
Une manière de clore la polémique tout en rappelant que Washington reste incontournable pour relancer le dialogue.
Je considère qu'on a besoin des États-Unis d'Amérique pour faire revenir tout le monde autour de la table.
Mais alors que Donald Trump semble désormais vouloir s'engager aux côtés d'Israël dans son offensive sur l'Iran, Emmanuel Macron met en garde.
Je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos.
Dans ce contexte tendu, pour faire le point sur la menace, le chef de l'État tiendra un conseil de défense cet après-midi à 16h à l'Élysée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le G7 qui se déchire par ailleurs sur l'Ukraine, pas de déclaration commune, faute d'avoir obtenu la signature des États-Unis en bas de page, les Américains opposés à une déclaration forte qui devait condamner la Russie.
La suppression des ZFE, les zones à faible émission, confirmée par l'Assemblée nationale.
Un projet de loi de simplification de la vie économique adopté par 275 voix pour, 252 contre. La gauche et les écologistes massivement s'y sont opposés, tout comme une partie de la Macronie. Le texte qui entérine la fin des ZFE doit maintenant franchir l'étape de la commission mixte paritaire. L'écrivain Alexandre Jardin, fervent opposant aux ZFE, se félicite de cette marche arrière.
Quand on se bat pour des valeurs, pour l'inclusion de tous avec des valeurs, en France, on gagne. Vous pouvez avoir le président de la République qui essaye de terroriser tout le monde, tous les membres du gouvernement qui défilent sur les médias pendant tout un week-end, histoire de terroriser tout le monde. Vous pouvez avoir une manœuvre basse, mais basse, une bassesse incroyable, puisqu'il est allé demander à ses députés de voter contre leur propre texte pour essayer de faire tomber en douce. Tout à coup, ça ne marche pas. Tout à coup, l'Assemblée exprime la volonté d'un peuple. C'est fini le cauchemar. La commission paritaire, on sait déjà qu'elle sera extrêmement favorable, mais surtout, c'est une victoire psychologique inouïe. On est un peuple qui ne se soumet pas à un président qui délire. C'est magnifique. C'est une énorme victoire de la démocratie.
Alexandre Jardin avec Thomas Guiguenot. MaPrimeRénov, les dépôts de nouveaux dossiers pour les rénovations d'ampleur suspendues dès le 23 juin. La mesure ne concerne pas les demandes d'aide pour les travaux isolés et les copropriétés. Et puis on pourra continuer de payer ses courses alimentaires au supermarché avec des tickets restaurants au-delà de 2027. Leur utilisation pour des produits non directement consommables est actée par la ministre du Commerce, tout comme leur dématérialisation.
Venons-en à l'affaire des airbags Takata. Plus de 200 000 Citroën C3 et DS3 vont devoir rester au parking. Consigne stricte du constructeur qui s'appuie sur une décision gouvernementale.
Une mobilisation immédiate ordonnée par le ministre des Transports en personne après la mort d'une conductrice à Reims. 18e décès lié au déclenchement intempestif de l'airbag. Au total, 209 329 C3 et DS3 vont devoir rester au garage. Comment cela va-t-il se traduire concrètement pour les automobilistes, Alexis de la Fléchère?
Alors le ministre des Transports ne peut pas interdire formellement aux automobilistes de rouler. Les conducteurs concernés pourront donc continuer à circuler s'ils le souhaitent. Il n'y a pas d'amende, pas de retrait de points. Mais Citroën est désormais obligé d'élargir son fameux stop drive à tous les véhicules rappelés. Une mesure qui impose aux constructeurs d'envoyer une alerte maximale à ses clients. Message clair, danger ultime. Arrêtez de conduire votre voiture, laissez-la au garage. On n'est plus dans le simple rappel préventif. Et selon le service communication de Citroën, des véhicules de prêt sont prévus pour ceux qui devront attendre trop longtemps leur réparation. En France, un peu plus de 200 000 voitures restent à prendre en charge selon la marque. Mais attention, même si rouler reste autorisé, donc en cas d'accident, un assureur pourrait refuser d'indemniser s'il est prouvé que l'airbag Takata a joué un rôle et que le conducteur a ignoré l'alerte.
Alexis de la Fléchère.
C'est l'un des joueurs phares du football français des années 70 à 80. Bernard Lacombe est mort hier à 72 ans.
Indissociable de l'Olympique lyonnais dont il fut l'avant-centre, puis tour à tour directeur sportif et entraîneur. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, champion d'Europe avec les Bleus de Michel Platini en 1984. Bernard Lacombe a connu la gloire avec Bordeaux, club avec lequel il a remporté 3 titres de champion et 2 Coupes de France. Le basket, Paris a un match d'un titre de champion. Les Parisiens vainqueurs une nouvelle fois de Monaco hier soir, 92-67 lors du match 2 de cette finale au meilleur des 5 manches. Match 3 vendredi en Principauté. Et puis le basket toujours avec le début de l'Euro féminin en Grèce. Les Françaises débutent ce soir face à la Turquie. Match à 16h30.
Merci Christophe Lamarre pour votre journal à 5h30 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez ce mercredi 18 juin. Dans un instant, les enfants d'Europe 1, Marion Gagnon.
Oui, avec l'or d'Autriche qui reviendra ce matin sur l'affaire du sang contaminé.
Mais tout d'abord, nous vous l'avions promis, les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Thomas, c'est un très beau quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Toulouse. La 7e étape du Grand National du Trot. Une course au trot attelé qui réunira 16 partants, répartis sur 3 poteaux différents de départ, s'échelonnant de 2950 à 3000 mètres. Et Marc Sassier, un entraîneur très doué et particulièrement bien armé au départ de ce quintet, avec ses 2 représentants, les numéros 10, Indy de Gire, et 14, Edic Gemma, qui, jugés sur ce qu'ils ont réalisé de mieux, possèdent à l'évidence une première chance. D'ailleurs, leur mentor n'a pas hésité à effectuer un très long déplacement depuis la Mayenne jusqu'en Haute-Garonne, non sans avoir quelques certitudes. On leur opposera les numéros 12, Django Vici, courageux lauréat de la 5e étape de ce Grand National du Trot au Croisé-la-Roche, et qui, sur sa lancée, devrait pouvoir confirmer. 15, Harmonista, en plein boom, comme le prouve sa dernière sortie le 22 mai à Salon de Provence, qui s'est soldée par une très facile victoire. Et 1, Gilord de Viva, certes le trotteur le moins riche au départ de ce quintet, mais pas le moins doué. Enfin, les numéros 3, Jeannette Priori, 6, Generous Charm et 5, Fameux Saxe, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 14, 12, 15, 1, 3, 6 et 5.
Merci Thierry Léger.
Et vous retrouvez dès maintenant tous les pronostics de Thierry Léger sur Europe1.fr et sur l'application Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Les enfants d'Europe 1.
Avec Laure d'Autriche, bonjour Laure.
Bonjour à tous.
Le 18 juin 2003, la justice mettait un terme définitif à l'affaire du sang contaminé, une affaire qui a commencé en 1991 avec ce scandale sanitaire qui secoue la France.
Oui, en 1991, une journaliste révèle que le Centre National de Transfusion Sanguine savait depuis 6 ans qu'une partie des traitements coagulants pour les hémophiles était contaminée par le virus du sida.
Ce sont ceux qui ont besoin de traitements répétés et à forte dose qui ont été fortement contaminés.
Plus grave encore, les médecins du centre décident de laisser ces lots en circulation, affirmant que ce n'est pas à eux de les retirer du marché.
Dans ce rapport, on voit que tous les produit était contaminé et on le savait. De ne pas avoir aux intéressés dit la vérité, c'est une rétention d'informations qui est coupable.
Les conséquences sont catastrophiques. 165 morts, un hémophile sur 2 contaminé, près de 2000 personnes concernées, dont des enfants. Le Centre National de Transfusion Sanguine est piloté par des médecins et son directeur, Michel Garetta, démissionne un mois après la révélation du scandale. Mais pour le président de l'Association des Polytransfusés, on est très loin du compte.
C'est une amère victoire puisqu'il y a beaucoup de victimes. Quand on est médecin et qu'on prend une telle décision d'écouler des lots contaminés à 100% par le virus du sida, l'action se transforme en une action criminelle. Parce que en mai 85, tout le monde savait tout.
Et le gouvernement tente de minimiser le scandale.
Le choix unanime de tous ces acteurs a été la distribution prioritaire des produits encore potentiellement contaminés aux hémophiles qui étaient déjà séroconvertis.
Le procès des ministres impliqués dans l'affaire du sang contaminé, dont le premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, se tient 8 ans plus tard, en 1999, en présence de familles de victimes, comme cette femme, assise au premier rang, qui a perdu ses 2 fils.
Il n'y a plus personne à l'heure actuelle dans le prétoire à part nous. On n'est plus que 2-3 à vouloir aller jusqu'au bout pour comprendre.
Pourquoi les autres...
Les autres victimes, à force d'entendre tellement de mensonges, sont parties. Nous en dire, on n'en peut plus.
Pendant 20 ans, les décisions judiciaires ne vont cesser de tomber puis d'être cassés. Un non-lieu sera finalement rendu pour tous les accusés en 2003.
Merci Laure d'Autriche. La réalisation des Enfants d'Europe 1 avec François Demoulin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'ailleurs sur notre application, notre site europe1.fr. D'ailleurs, il fallait être attentif puisque c'est l'heure de jouer avec les Enfants d'Europe 1, Marion. Un très beau cadeau à gagner cette semaine.
Oh là là, oui. Europe 1 vous invite à vraiment prendre le large et vivre une pause iodée inoubliable au Cure Marine de Trouville-sur-Mer. C'est bien sûr en Normandie. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles, idéalement situé face à la mer, entre plages et centres historique qui célèbre ses 10 ans d'élégance et de bien-être. Vous allez profiter de 3 nuits de rêve pour 2 personnes, évidemment, avec petit déjeuner, 3 soins de thalasso. Vous aurez accès au spa de 2500 m² avec piscine, d'eau de mer chauffée. Enfin, tout est vraiment pensé pour votre détente absolue dans ce lieu magique que je vous invite à découvrir sur le site lescuremarines.com.
Voilà, c'est cadeau, c'est Europe 1 qui vous l'offre. Si vous avez la réponse à notre question du jour, en quelle année a été révélé le scandale du sang contaminé Etesse ? Réponse A en 1991, réponse B en 1995.
Allez, pour jouer, c'est très facile. Vous êtes peut-être encore au lit, vous prenez votre téléphone, vous envoyez simplement le mot thalasso au 739-21. Thalasso au 739-21. 2 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et on félicite Isabelle qui habite à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique ce matin, qui remporte son abonnement au JD News. Vous le savez, chaque jour, un gagnant est tiré au sort parmi les inscrits des Enfants d'Europe 1. Bravo Isabelle.
Oui, bravo pour votre cadeau. Le JD News, vous le savez, c'est votre magazine d'information du mercredi à la une. Ce matin, eh bien, l'avocat Thibault de Montbrial et ses recommandations contre les violences et la sécurité intérieure.
Sur Europe 1, dans quelques minutes, c'est le Club Culture. Mais d'abord, place à votre invité, Thomas Schnell.
Bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Le projet de loi de simplification de la vie économique qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission a été approuvé à l'Assemblée. Aurélien Taché, vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise. Alors, expliquez-nous, quel signal est envoyé aux Français quand on leur demande sans cesse des efforts pour réduire leur empreinte carbone? Là, nous sommes en pleine vague de chaleur, chaleur précoce. Il y a eu récemment les atermoiements du gouvernement sur MaPrimeRénov, censé encourager des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments. Alors, quel est le signal qu'on envoie à la population avec le vote hier à l'Assemblée?
Écoutez, moi, je pense qu'il faut distinguer les deux sujets entre, par exemple, les zones à faible émission et les dispositifs du type MaPrimeRénov. Vraiment, avec MaPrimeRénov, on est sur une forme d'écologie populaire que nous défendons à la France Insoumise. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un logement qui est mal isolé. L'État vous accompagne pour le rénover parce que vous ne pouvez pas le faire avec vos propres moyens et que finalement, c'est d'intérêt général que d'avoir des logements qui émettent moins de gaz à effet de serre. Sur la question des zones à faible émission, c'est tout à fait le contraire. L'État, finalement, dit à ceux qui n'ont pas de moyens, vous ne pourrez plus accéder aux zones les plus centrales des métropoles parce que finalement, nous allons protéger les habitants de ces zones-là en priorité et si vous devez y accéder, vous allez payer. L'écologie ne doit pas se faire au détriment finalement, des populations qui ont le moins de moyens.
Aurélien Taché, évoquons la situation internationale. Nous sommes au sixième jour de guerre, il faut le dire, entre Iran et Israël, des bombardements des deux côtés. Aujourd'hui, selon vous, qui de l'Iran ou d'Israël est la puissance déstabilisatrice du Moyen-Orient ?
Il y a un agresseur, un agressé. Il y a un droit international qui protège l'agressé, quand bien même celui-ci ne nous est absolument pas sympathique. Moi, je n'ai aucune sympathie, aucune, et j'ai même beaucoup d'animosité envers le régime des Mollahs. En revanche, je sais que derrière ce régime, il y a un peuple. Il y a un peuple qui souffre. Il y a un peuple que beaucoup aiment finalement prendre en exemple quand il s'agit de dire que on a des femmes, par exemple, qui se battent contre le régime des Mollahs et qui sont finalement opprimées, voire même exécutées par ce régime inique. Mais tout d'un coup, quand il s'agit des bombes israéliennes, les femmes iraniennes, ça compte moins. Hein. Il faudrait finalement faire la différence différence entre mourir d'une pendaison organisée par le régime des Mollahs ou d'une bombe israélienne. Mais bon, je la fais pas, vous voyez. Je défends les Iraniens et les Iraniennes, parce qu'on évoquait le sujet des femmes. De la même manière, on ne doit pas être mis à mort par ce régime inique des Mollahs quand on est iranien ou iranienne. On ne doit pas non plus faire l'objet de bombardements par une puissance qui aujourd'hui viole le droit international et agresse un État dont, encore une fois, derrière, il y a des populations civiles. Et ça ne peut pas se passer comme ça en réalité. Il ne peut pas y avoir un deux poids, deux mesures. Il doit y avoir le droit international et uniquement le droit international.
Emmanuel Macron a déclaré « Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même se sont toujours trompés. » Est-ce que vous souhaitez la chute du régime iranien ?
Mais je la souhaite, mais je ne suis pas iranien, monsieur. Et ce n'est pas à moi de décider finalement comment tout doit se régler dans les affaires intérieures des 198 autres pays que la France. Vous voyez, je considère effectivement que quand les États-Unis d'Amérique ont dit qu'elles allaient tout régler en Irak ou en Afghanistan, elles ont créé des terroristes, monsieur. Elles ont créé des gens qui aujourd'hui viennent poser des bombes en France, parce que quand vous allez comme ça bombarder des pays, vous créez de la souffrance, vous créez du chaos, et vous avez ensuite des groupes qui sont dangereux, qui prospèrent finalement sur le chaos que vous avez créé et qui peuvent s'en prendre à nos concitoyens français.
Ne considérez-vous pas que le programme nucléaire iranien constitue une menace pour Israël, mais aussi pour l'Europe?
Mais le programme nucléaire iranien, effectivement, est une menace. Mais vous savez, la France, avec d'autres pays d'ailleurs, on réussit à faire admettre aux Iraniens qu'il ne fallait pas enrichir d'uranium pour faire des armes militaires. Et quand vous lisez aujourd'hui les rapports américains et les rapports de la CIA, moi je l'ai fait, je suis à la Commission des Affaires étrangères, je m'intéresse de très près à toutes ces questions, il est très clairement mentionné qu'il n'y a pas de nucléaire militaire en Iran. Il n'y en a pas, comme il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Donc on a effectivement un enrichissement d'uranium qui doit être contrôlé, qu'on avait réussi à contrôler par la voie diplomatique et par la voie des négociations, et qui finalement aujourd'hui tout ça est remis en cause avec Israël qui n'en a rien à faire de savoir finalement si l'Iran a ou non la bombe nucléaire. Le sujet d'Israël aujourd'hui, c'est de pouvoir attaquer l'Iran parce que ça soude son peuple contre finalement le génocide qui se passe à Gaza et pour M. Netanyahou, pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Donc voilà, je ne peux pas, moi, en tant que député français, vous dire que c'est une bonne chose.
Donc vous souhaitez privilégier la négociation avec l'Iran, même si, rappelons-le, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui contrôlait le développement du programme nucléaire iranien jusqu'à la fin de l'accord de Vienne par le premier mandat de Donald Trump, l'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaissait que l'Iran n'était pas transparente sur son programme nucléaire et que ses agents ne pouvaient pas enquêter, venir vérifier si Téhéran respectait bien les engagements prévus dans le protocole de Vienne. Vous privilégiez toujours la négociation aujourd'hui.
Non mais qu'il y ait des difficultés, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas de confiance absolue dans le régime iranien. Je vous ai dit à quel point ce régime m'était évidemment antipathique et à quel point je le combattais. Mais je ne suis pas iranien moi-même, donc je vous dis ça en tant que député français. Mon avis sur ce régime est qu'il est évidemment inique. En revanche, ce que je sais, c'est que quand bien même ce régime n'est pas totalement honnête, on a les moyens aujourd'hui de savoir si oui ou non il y a du nucléaire militaire en Iran. C'est-à-dire même la CIA reconnaît que non, il n'y a pas de nucléaire militaire en Iran. Donc effectivement, continuer à privilégier la voie diplomatique pour empêcher cet enrichissement d'uranium aurait été préférable. Monsieur Trump a préféré dénoncer les accords qui avaient été trouvés sur le désarmement nucléaire de l'Iran, sur le fait qu'il ne devait pas aller plus loin en matière d'uranium, pour privilégier des solutions brutales. Et aujourd'hui, M. Netanyahou s'engouffre dans la brèche. Tout ça est, à mon avis, quelque chose qui va nous ramener au pire. Je pense que des intérêts idéologiques priment aujourd'hui sur la défense de la France, et je le regrette.
Merci beaucoup, Aurélien Taché.
Merci à vous.
Député de la France Insoumise du Val-d'Oise, merci d'être venu sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h,
Thomas Schnell.
5h52, bienvenue à tous sur Europe 1. Toute l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamar.
La bataille commence. La réplique du guide suprême iranien après les déclarations de Donald Trump qui exige une capitulation sans condition de l'Iran. Selon les médias américains, la solution diplomatique ne serait plus la priorité des États-Unis. Une implication directe dans le conflit n'est pas exclue. L'influenceur Doualemn libéré du centre de rétention administrative du Medinamlo, faute d'accord avec le gouvernement algérien. Le TikToker à l'origine d'une crise diplomatique entre Paris et Alger est ressorti libre après 90 jours. L'affaire des airbags Takata défectueux, le gouvernement demande l'immobilisation immédiate de toutes les Citroën C3 et DS3 faisant l'objet d'un rappel. Près de 210 000 voitures sont concernées. Puis la disparition d'une grande figure du football français en général et de l'Olympique lyonnais en particulier. Bernard Lacombe est mort hier à 72 ans.
Europe 1. Très bon début de journée avec Europe 1. Bonjour, il est 5h53. Thomas Schnell.
C'est l'heure du Club Culture sur Europe 1. Notre promesse, vous donner les meilleures recommandations littéraires d'abord avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous nous choisissez des livres à lire cet été. Alors quel est votre livre culte du jour ?
Oh, un bijou d'intelligence. Il s'agit du grand neuroscientifique britannique Oliver Sacks. Il est mort en 2015 et il a publié quelques chefs-d'œuvre comme L'odeur du si bémol, vous imaginez ce titre, ou Un anthropologue sur Mars, ou L'éveil. Il y avait eu une adaptation avec Robin Williams de L'éveil. Il y racontait comment il avait réussi à réveiller des patients plongés dans un état léthargique depuis très longtemps. Mais surtout son hit, le plus connu, peut-être le meilleur d'ailleurs, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Parce que, en plus d'être un grand médecin, c'était aussi un grand écrivain. Il a un style incroyable. Et il sait raconter les histoires.
Mais toujours des histoires de patients ?
Oui, c'est sa particularité. Les livres de Sacks parlent de ses patients et donc des troubles neurologiques et psychiatriques. Des cas extrêmes, souvent, comme cet homme donc qui prend sa femme pour un chapeau. En fait, il souffre d'agnosie visuelle. Il est incapable de distinguer les choses dans leur ensemble. Il voit très bien certains détails, certaines formes, mais il est incapable de les percevoir comme un tout. Et donc, il ne reconnaît plus les visages, par exemple. Ou le cas d'un autre patient de Sacks qui souffre du syndrome de Korsakoff qui affecte la mémoire immédiate. En 1945, sa mémoire à court terme a cessé de fonctionner. Il s'est alors retrouvé dans l'incapacité de former des nouveaux souvenirs puisqu'il oublie les événements quelques minutes après les avoir vécus et donc 30 ans plus tard, il se croit toujours en 1945. Son frère vient le voir, il lui dit non monsieur, c'est vrai que vous lui ressemblez, mais mon frère il a 25 ans, vous en avez au moins 50. Il passe devant le supermarché du quartier et il se demande bien comment ils ont pu détruire le cinéma et construire le magasin à la place en l'espace d'une seule nuit.
Oui, pas facile à vivre.
Et non, alors ce sont des histoires terribles, bien sûr, mais le génie de Sacks, c'est de montrer comment ces gens perçoivent le monde, et du coup, on relativise notre propre perception du monde. Et puis, il explique aussi à chaque fois comment il essaye de les soigner. C'est la rencontre parfaite entre la littérature et le goût pour les sciences. Génial.
L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks. Merci, Nicolas.
Europe 1, bonjour. 5h-7h, c'est l'heure de retrouver Laurie Choleva pour les sorties ciné de la semaine.
Oui, cinéma, mais pourtant, on peut bien faire un tour du côté du Festival de théâtre d'Avignon.
Avec la comédie dont tout le monde parle, Avignon, c'est le titre du film, un premier film de Johan Dionnet, multiprimé au Festival de l'Alpe d'Huez, avec Baptiste Le Caplain ou encore Alison Wheeler. Alors, c'est l'histoire d'un comédien en galère qui part à contre-cœur au Festival d'Avignon avec son ancienne troupe et qui va laisser croire qu'il joue Roderick dans Le Cid pour plaire à une comédienne en vogue.
Attends, tu joues dans Le Cid ?
Pardon ?
Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui ?
Je joue...
Tu vas pas faire croire que tu joues Le Cid pendant tout Avignon.
C'est hyper romantique.
Alors, je sais pas si t'es un génie ou une truffe.
Alors bien sûr, c'est une comédie romantique, mais c'est aussi le cinéma qui déclare son amour au théâtre. C'est vraiment une immersion dans le quotidien des artistes. On plonge dans l'ambiance des troupes de théâtre, que ce soit les troupes populaires ou encore le théâtre classique. Et puis surtout, quel bonheur de sentir en fait la frénésie de ce festival de théâtre, comment cette ville d'Avignon se fait envahir par ce tourbillon artistique. C'est vraiment la comédie rafraîchissante du moment.
Et Laurie, la nouvelle sortie du Pixar.
Helio, c'est leur 29e film qui nous embarque dans l'espace. Alors, c'est toujours un événement, évidemment, la sortie des Pixar Disney. Là, c'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans, élevé par sa tante, qui a du mal à se faire des amis. Et vous savez, on a tous des rêves dans la vie. Eh bien, le sien, c'est de se faire enlever par des extraterrestres. Et c'est là que la magie Disney opère. Son vœu va s'exaucer et il va découvrir une communauté qui regroupe les extraterrestres de toutes les galaxies.
Ils m'ont entendu ? Tu vas me manger ?
Quoi ? Berk !
Non, mon nom à moi c'est Helio. Et toi, ton nom c'est quoi ?
Personne m'a jamais demandé mon nom.
Moi, c'est Gordon.
C'est mignon, c'est bienveillant, c'est émouvant. Les aliens sont très rigolos. Et puis, au-delà de tout ça, c'est l'histoire d'un petit garçon qui cherche sa place hein, depuis qu'il a perdu ses parents. Il y a une notion du vivre ensemble et surtout d'accepter la différence très forte.
Voilà, Pixar, le théâtre, les recommandations de Laurie Choleva. Merci Laurie, à la semaine prochaine.
Et Laurie, on vous retrouve samedi pour Clap, bien sûr, sur Europe 1. Très bon réveil. Il est 5h57. Nous sommes le mercredi 18 juin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Votre météo, Marion, dans un instant. Et puis, dans la prochaine demi-heure, Ombline Roche nous rejoindra. Bonjour Ombline.
Bonjour Thomas, bonjour Marion.
Quelle est votre partition à 6h20 aujourd'hui?
Ce matin, l'un des groupes les plus décalés de la scène New Wave américaine. La partition des B-52s, un groupe déjanté qui n'a jamais manqué d'originalité. Rendez-vous dans 20 minutes sur Europe 1.
Et après le journal, Stéphane Bern nous dévoilera le thème de son émission Au cœur de l'histoire. Puis rendez-vous à 6h15 pour l'édito de Laurent Tessier-Marion.
La France des honnêtes gens qui souffrent. Et pendant ce temps-là, une partie de la classe politique regarde ailleurs. C'est ce que pense Laurent Tessier. Vous en parlera dans un quart d'heure.
Mais pour l'instant, faisons un point sur la météo de ce mercredi, Marion. La hausse des températures se confirme.
On est mercredi, on en parlait avec Laurie Choleva il y a quelques minutes. C'est le jour parfait pour vous réfugier dans une salle de ciné climatisée par exemple. Ou alors si vous avez la chance d'avoir une piscine, profitez-en parce qu'il va faire chaud. Surtout cet après-midi, ce matin c'est encore largement respirable, supportable. Hein. Vous avez 22 à Nice, 20 à Marseille, 19 degrés à Paris, 17 à Bordeaux, 15 à Bourges, 14 à Angers et à Auxerre. Et alors vous allez voir le cap qu'on passe cet après-midi, puisque 14 ce matin à Auxerre et 33 cet après-midi. Hein. On gagne quasiment 20 degrés. Vous aurez 35 à Nîmes, 34 à Angoulême, 34 à Avignon, 33 à Vesoul, 32 degrés à Orléans et à Lyon, 31 à Paris, 30 à Biarritz, 29 à Alençon et seulement 22 degrés du côté de Dunkerque. Vous l'aurez compris, la journée sera chaude et très ensoleillée. Alors on a toujours deux petits bémols, un en matinée le long des côtes de la Manche où des plaques de brouillard peuvent vous gêner, surtout si vous circulez ce matin, attention. Et un cet après-midi sur les reliefs, les Alpes du Sud et le relief Corse, où des averses pourraient se déclencher. La suite, eh bien, de la chaleur, du soleil pour toute la semaine et peut-être le premier épisode de canicule ce week-end. Attention.
Merci Marion Gagnot. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 18 juin, il est 6h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Thomas Schnell.
Un nouveau journal à 6h. À la une de l'actualité, les États-Unis aux portes de la guerre. Une action militaire en Iran est possible, selon les médias américains. Le président Donald Trump exige la capitulation sans condition de Téhéran. En attendant, les sirènes d'alerte continuent de retentir en Israël pour la sixième nuit consécutive.